7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiot.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, au cœur des rayons de supermarché aujourd'hui. Trouver tous les produits ou presque à petit prix, telle est leur promesse. Les supermarchés sont devenus les symboles de la modernité ou de la surconsommation, c'est selon. Ils investissent la planète et gagnent le continent africain, mais comment s'en passer? Aujourd'hui, on leur reproche pêle-mêle d'avoir causé l'agonie des producteurs, la mort des centres-villes désertés au profit des hypermarchés en périphérie, ou encore le gaspillage alimentaire. Alors, quelles sont les alternatives aux grandes surfaces? Les circuits courts sont-ils la solution, eux qui mettent directement en lien producteurs et consommateurs? La défiance pour les produits transformés et puis surtout l'e-commerce avec Amazon, auront-ils raison des supermarchés dont la croissance ralentit dans les pays riches? Mathilde Gola, vous avez réussi à les court-circuiter ces supermarchés 100 jours, bonjour.
Bonjour Charlie.
100 jours sans supermarché, c'est le titre du livre que vous publiez chez Flammarion. Vous qui êtes journaliste au Figaro en charge des questions économiques, et nous allons revenir sur votre expérience, votre aventure même, une aventure qui vous a conduit à réfléchir à comment se nourrir autrement. Bonjour Yuna Chifolo.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault, qu'on remercie. Et nous serons également en ligne avec Virginie Mix, cofondatrice d'un élevage d'insectes près de Lille, dans le nord de la France. En fin d'émission, nous retrouvons notre chronique de l'Afrique qui gagne. Chaque lundi, nous donnons la parole à un entrepreneur au service du continent africain. Et cette semaine, Alice Milo nous emmène à la rencontre d'Awa Kaba, sénégalaise qui a développé une plateforme de vente en ligne de produits locaux transformés. Alors les voisins, les voisines, on attend vos appels. Allez-vous au supermarché? Si oui, qu'est-ce qui vous attire? Et sinon, pourquoi? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et nous sommes depuis peu sur WhatsApp avec le même numéro, je vous le redonne, 33 1 84 22 71 71. On vous y attend pour vos messages écrits et vocaux, et vous êtes déjà nombreux au standard.
Je suis Emmanuel Fouda Aïda depuis Yaoundé au Cameroun. C'est vrai que moi, je fais mes achats dans un supermarché, toujours quand je sais que j'ai besoin de plusieurs choses à la fois et que je pourrais les trouver dans un supermarché. Et bien sûr, évidemment, que c'est des gens qui ont des moyens qui peuvent aller dans un supermarché.
Salut les voisins. Est-il possible de se passer le supermarché? Dans les temps, c'était possible, je peux dire. Aujourd'hui, la majorité des Kinois fréquentent les supermarchés. Sur les grandes artères et tout, il y a des supermarchés partout. On peut trouver tous les articles là-bas. Mais bon, c'est vrai que les prix dans les supermarchés sont un peu plus hauts. Moi, personnellement, je fais mes courses dans les supermarchés. Une fois que je serai là-bas, je peux me procurer tout là-bas directement et puis je sors.
Bonjour, chers voisins et voisines. Je suis Nelson Kakem depuis le Cameroun. Chez nous, il est encore possible de vivre sans supermarché. Moi particulièrement, lorsque je vais faire des courses, parfois, je me rends chez le boutiquier du quartier ou encore je me rends chez la voisine qui a véritablement toute la variété des denrées alimentaires qui puissent satisfaire mes attentes. Elle nous livre à la fois des macabos, des plantains, du manioc, du riz, des tomates et tous les ingrédients qui vont avec. Les gens en périphérie consomment localement. Cela dit, ils font des champs, ils font des cultures. C'est avec ces cultures-là qu'ils s'alimentent.
Alors la plupart de nos voisins se passent déjà de supermarché. Comment vous est venue cette idée-là, Mathilde Gola, de vivre sans supermarché?
Alors en fait, c'est une rencontre qui a été assez décisive pour moi. Je suis normande et au hasard d'un de mes retours dans ma région natale, j'ai revu donc le voisin de ma mère qui est un éleveur laitier. Et j'étais assez surprise parce que je voyais qu'il était en train d'arrêter son activité, de vendre ses fermes, d'arrêter en fait. Je lui ai posé quelques questions pour en savoir plus parce que c'était pas le moment pour lui. C'était pas le moment de partir à la retraite, et c'est là qu'il m'a expliqué qu'il perdait de l'argent tous les mois, que ça devenait très compliqué pour lui de continuer à vivre de son métier parce qu'il vendait toute sa production à la grande distribution, mais chaque litre de lait produit sur sa petite ferme lui coûtait plus d'argent que cela ne lui rapportait. En fait, Très concrètement, un litre de lait lui coûte à peu près 30 centimes d'euros à produire. Or, la grande distribution lui a acheté 20 centimes d'euros chaque litre de lait. Donc, c'est une équation qui ne va pas et qui était destructrice de valeur pour lui. Donc, à force de perdre de l'argent tous les mois, il a décidé d'arrêter son activité. Fort de ce constat, j'étais un peu surprise. J'ai pris un peu de recul et j'ai voulu savoir si c'était une exception ou pas. Et je me suis assez rapidement rendu compte qu'il y avait énormément d'agriculteurs en France qui ne vivent plus de leur métier. Aujourd'hui, on parle d'un agriculteur sur 5 qui perd de l'argent en exerçant son métier. Et donc, voilà, à force de ces constats-là, je me suis dit qu'il devait y avoir une solution plus rémunératrice pour les producteurs.
Et un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 euros par mois.
Oui, exactement. Donc c'est vraiment et la plupart des agriculteurs aujourd'hui vendent leur production à la grande distribution, qui est souvent pointée du doigt comme une des responsables de cette situation. Donc fort de tout ça, moi j'ai pris un peu de recul et je me suis demandé s'il n'y avait pas d'autres façons de consommer qui seraient plus profitables aux agriculteurs. J'ai interrogé mon entourage, les réseaux sociaux, et on m'a très rapidement orientée vers les circuits courts, donc qui valorise beaucoup plus les producteurs, parce que c'est soit un rapport direct avec le producteur, soit avec un intermédiaire entre deux. Donc un rapport beaucoup plus proche avec les producteurs.
Alors paradoxalement, vous avez commencé cette expérience en passant un mois à vous nourrir exclusivement de produits issus de supermarchés.
Exactement, pour effectivement avoir une comparaison fiable et tenir un carnet de compte scrupuleusement et pouvoir avoir un élément de comparaison. Pendant un mois, j'ai acheté tous mes produits au supermarché avant de me lancer dans cette aventure de cette immersion dans les circuits courts.
Pour un total de 300 euros, c'est ça ?
Oui, exactement, voilà.
Et on va le comparer avec ce que vous avez dépensé en vous nourrissant grâce aux circuits courts. Alors on accuse les grandes surfaces de vider les centres-villes et de défigurer le paysage, notamment le paysage français. Écoutez cet extrait d'un reportage diffusé sur la chaîne de télévision France 2.
Ils ont pris possession du paysage. En périphérie, aux entrées des villes, les centres commerciaux ne cessent de s'étendre. Pas loin de 2 millions de mètres carrés supplémentaires en moyenne, chaque année en France. Mais parfois, certaines communes résistent.
Voilà. Cette partie-là, à peu près, on voit la caserne des pompiers, c'est juste derrière, et puis par ici.
Cette commerçante nous montre les terres agricoles sur lesquelles une grande surface veut s'implanter. 5000 mètres carrés de supermarchés et de galeries marchandes. À 3 km seulement du centre de la ville voisine. Dans leur lutte, les élus peuvent en tout cas compter sur le soutien de ce couple. Anciens commerçants tous les deux, en guerre contre les grandes surfaces. Le combat d'une vie et un constat, les maires cèdent trop souvent aux sirènes de la grande distribution.
Les élus sont séduits par les projets de la grande distribution, d'abord parce qu'ils leur apportent des taxes, puisque les surfaces vont leur apporter des taxes. En plus, on leur promet des emplois.
Des emplois, mais à terme, la désertification des centres-villes. Les opposants demandent donc un moratoire. Les avis sont partagés au sein du gouvernement. Le ministère de l'économie, par exemple, n'y est pas favorable. En attendant, les surfaces commerciales continuent de s'étendre autour des villes.
Et les grandes surfaces sont encore plus nombreuses année après année en France, même si leur croissance ralentit. Mathilde Gola, de quel mot est responsable la grande distribution, selon vous ?
Oui, vous parlez de la désertification des centres-villes, c'est assez vrai. Moi, justement, je me fie toujours à ce petit village normand d'où je viens et où j'ai vu effectivement l'explosion des grandes surfaces et en parallèle le centre-ville qui est pourtant un petit peu très touristique et qui s'est complètement vidé de ses commerces de bouche. Donc, c'est vrai que c'est un des fléaux, en fait, pour les petits commerces de proximité, c'est la grande distribution, on l'a souvent dit, parce que comme le dit votre reportage, effectivement, pendant longtemps, les élus locaux étaient assez attirés par les retombées immédiates que pouvait procurer la grande distribution. Or, on sait aujourd'hui que finalement, pour un emploi créé par les supermarchés, c'est plusieurs emplois détruits, soit dans les petits commerces de bouche locaux, soit sur les fermes elles-mêmes, puisqu'on va le voir certainement tout à l'heure, mais les circuits courts sont tout à fait créateurs d'emplois sur les exploitations.
Yuna Chifolo, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Oui, alors c'est effectivement, on n'a pas beaucoup de recul en fait sur les circuits courts parce que en France ou même en Europe, jusqu'à la période récente finalement, c'était considéré seulement comme une forme de diversification, donc si, au même titre d'autres, au même titre que de l'accueil à la ferme par exemple ou de la transformation. C'est seulement depuis 2010, donc il y a eu un ministre, Michel Barnier, qui a commencé à se réintéresser aux circuits courts, faire travailler les gens pour voir un peu le potentiel, y compris d'emploi que ça pouvait représenter. Et donc, depuis, on en sait un peu plus. Mais clairement, c'est pas simple parce que voilà, même la recherche ne s'est pas suffisamment intéressée à ces circuits. Alors, effectivement, depuis le recensement agricole 2010, on a montré que les exploitations en circuit court dégageaient plus de main-d'œuvre à l'hectare que des exploitations en circuit long. On a même des rapports assez importants. Après, sur le reste de la chaîne, c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, on n'a pas cet appareillage statistique. En tout cas, il y a eu un désintérêt vis-à-vis de ces formes de vente. Et donc, on a tout à reconstruire, y compris l'appareillage statistique, pour en plus cerner des circuits qui sont très différents, puisque c'est aujourd'hui circuit court, même si on se limite à cette définition, un intermédiaire, c'est une vingtaine de modalités différentes, avec des formes individuelles, collectives, des formes locales ou extra-locales. Un phénomène quand même difficile à cerner.
Alors, on va reparler des circuits courts. Les supermarchés sont donc en crise dans les pays du Nord, mais en pleine expansion au Sud, hein, encore réservé néanmoins à une élite. Depuis plusieurs années, de grands groupes comme Auchan, Leader Price, Casino investissent en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi le cas de groupes locaux comme Citidia en Côte d'Ivoire. Je vous propose d'écouter ce reportage de la chaîne Canal+.
Quelque part sur la route qui relie Abidjan à Yamoussoukro, un 4x4 se fraye un chemin dans la circulation. À l'intérieur, un habitué de la route.
Tous les 15 jours, je viens contrôler les supermarchés de l'intérieur pour relever le taux de rentabilité et corriger les indices qui ne sont pas encore atteints.
Voici le responsable de la qualité des centres commerciaux, Citidia, le leader des supermarchés de proximité en Côte d'Ivoire. Il sillonne le pays en permanence pour aller contrôler les 18 supermarchés de l'entreprise. Contrairement aux hypermarchés, l'enseigne s'installe au cœur des zones résidentielles, loin de la concurrence des hyper. Objectif, proposer une alternative aux épiceries pour la classe moyenne.
Il y a une forte demande au niveau de la classe moyenne naissante en Côte d'Ivoire, une aspiration légitime à des produits manufacturés, à des produits importés de qualité. Nous devrions absolument mettre à leur disposition ces produits.
7 milliards de voisins, la RFI, je suis content de vous. Je vous écoute 24 heures sur 24, 7 sur 7.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et nous sommes en ligne avec un voisin, Guy Lecointe. Bonjour. Guy, vous êtes avec nous ?
Je suis avec vous.
Parfait. Alors, vous travaillez pour le groupe Casino à Lomé, au Togo. On vous écoute.
Alors, écoutez, moi, je suis effectivement consultant pour le groupe Casino sur l'Afrique et les Antilles. Et je suis à Lomé depuis 8 ans. Et donc, je voulais expliquer qu'on essayait de faire le mieux possible pour avoir des magasins casinos qui ressemblent aux magasins casinos en France, sauf qu'on ne peut pas faire du copier-coller et qu'on est obligé de s'adapter au marché local.
Il y a des produits qui ne fonctionnent pas au Togo ?
Alors, écoutez, d'abord, si je vous dis que je ne fais pas d'ananas en boîte, vous comprendrez que dans la mesure où j'ai toute la journée des jeunes femmes qui vendent des ananas frais, je vois pas l'intérêt de faire des ananas en boîte. J'ai essayé de faire des asperges, des fonds d'artichaut, des cœurs de palmier ou des salsifis. C'est pas du tout dans la culture africaine. Donc on se rabat plutôt sur le couscous, les semoules de blé, les pâtes, le riz, et ainsi de suite. Et puis après on s'adapte à la clientèle locale. Et on est obligé effectivement de faire un tri par rapport à l'assortiment des produits qui sont en France.
Et quels sont les principaux aliments qui sont achetés ?
Ben, écoutez, essentiellement, alors, ici, c'est plutôt, alors, comme je vous disais, les pâtes, le riz, la semoule de blé, le couscous, et ainsi de suite. Les sardines, que sais-je encore, et puis la charcuterie, le poulet, les choses comme ça. Mais j'ai essayé à un certain moment de faire du saumon fumé, j'ai arrêté. Je faisais des produits frais par avion, style yaourt, fromage blanc et ainsi de suite. J'ai arrêté également pour la simple et bonne raison, c'est que déjà on veut nous privilégier l'économie locale. Et pourquoi faire des yaourts à 1 € par avion alors qu'on trouve des yaourts de très bonne qualité à 20 centimes d'euros sur le local ? Donc on est obligé de s'adapter.
Et vous adaptez, vous essayez aussi que ça ressemble, ce supermarché, à un grand marché, c'est ça ?
Alors, on a, si vous voulez, si vous rentrez dans le magasin actuellement, ça ressemble à ce qu'ils font avec un magasin casino en France, puisqu'on a les gondoles en métallique, on a les caisses scannerisées, on a tout un tas de choses. Mais on est obligé, si vous voulez, de s'adapter aussi au marché local. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai supprimé pas mal de références qui existent chez Casino et qui ne se vendent pas ici pour privilégier les marques locales. Je vais vous donner un exemple. On a des bonnes sœurs qui font du miel, qui font de la confiture, qui font tout un tas de choses. On a des rayons spécifiques avec du café local, des miels locaux, de la confiture locale, de la farine de blé locale, tout un tas de choses. On essaye de faire travailler un maximum l'économie locale.
Il faut s'adapter à la demande locale. Merci beaucoup Guy pour ce témoignage. Mathilde Gola, voulait réagir?
Oui, en fait, on voit que c'est finalement une preuve de bon sens que de privilégier tous les produits locaux. C'est d'ailleurs ce qui se produit aujourd'hui, en fait, à rebours de la grande distribution qui s'est développée à tout crin en France. Il y a aujourd'hui des nouveaux magasins qui ressembleraient d'ailleurs au casino décrit par ce monsieur. Par exemple, je pense à Colmar, il y a un magasin qui s'appelle Cœur Paysan et qui est finalement une réunification de produits. C'est une quarantaine de producteurs qui ont décidé, d'ailleurs pour le symbole c'est assez intéressant, de racheter un magasin Lidl et d'y implanter une forme de grand marché, comme vous le disiez. En fait, les producteurs viennent vendre directement leurs produits, ils tiennent la caisse à tour de rôle et ils se sont trouvé une organisation et ça fonctionne très bien.
C'est le supermarché des producteurs.
Exactement, et c'est uniquement des produits locaux évidemment qu'on peut trouver dans ce nouveau magasin-là. Et il y a aussi tout le réseau des épiceries paysannes qui se développe sur tout le territoire et qui fonctionne plutôt bien. Donc il y a finalement, on revient à quelque chose qui fait appel au bon sens, quoi.
Avec de nouveaux modèles qui émergent. Nous sommes en ligne avec un autre voisin, Serge, à Yaoundé. Bonjour Serge.
Bonjour.
Alors la ligne est très mauvaise. On va essayer d'essayer de vous entendre. Vous travaillez pour le groupement des exploitants au Cameroun. On vous écoute Serge.
Oui, comme je l'ai dit dans l'éducation, je vais travailler pour le gouvernement de l'Essorant dans la situation.
Alors, je suis désolée, Serge, de vous couper. Malheureusement, la ligne est trop mauvaise. On va essayer de vous avoir un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, Mathilde Gola, il y a aussi en France, dans les supermarchés, des produits qu'on trouve exclusivement,
oui,
quasi exclusivement dans des supermarchés.
Voilà. Alors effectivement, bah je pense aux papiers, tous les papiers, moi j'ai pas trouvé, j'ai cherché par tous les moyens de me procurer du papier toilette autrement qu'en grande distribution et en grande surface et ça n'a pas été possible. Et par contre, pour un tas de produits, j'ai trouvé des alternatives en fait. Par exemple, comme en circuit court on trouve uniquement des produits de saison et locaux, bah, j'ai dû revoir mes habitudes. Donc c'était peut-être là la plus grande difficulté, c'était de se dire que certains réflexes doivent être aux oubliettes finalement et il faut se concentrer sur les choses locales, donc s'intéresser davantage à ce que produit la nature finalement, et consommer des légumes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de consommer. Et puis pour peu qu'on s'y intéresse un petit peu, finalement la diversité est relativement grande, même en Île-de-France on a finalement un large choix de fruits et légumes locaux, même en hiver. Voilà, il faut juste en fait s'informer, réagir différemment, mettre un petit peu plus la main à la pâte, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais faire plus de choses soi-même et puis accepter des différentes alternatives. Je pense par exemple au coton. Évidemment, je ne trouvais pas de coton via les circuits courts, donc j'ai dû trouver des alternatives, donc des petites lingettes lavables et qui sont réutilisables et finalement beaucoup plus économiques à long terme.
Et ça demande du temps, bien sûr, toute cette recherche.
Oui, exactement. Oui, ça demande du temps de changer ses habitudes aussi. En fait, de revoir son mode de consommation, ça prend un peu de temps, mais une fois qu'on a accepté de tout changer, finalement, on s'inscrit dans une nouvelle routine et voilà, c'est des nouvelles habitudes qui prennent pas plus de temps. En fait, ce qui prend du temps, c'est de changer ses habitudes, de revoir ses réflexes, quoi.
Et vous avez dû aussi concocter vos propres produits cosmétiques,
exactement,
des shampoings notamment.
Exactement. Voilà, là, ça a été une réussite qui était un peu moins au rendez-vous finalement, parce que ça demande là, pour le coup, pas mal de temps et une expérience, des compétences que j'avais pas forcément. Mais bon, j'ai peut-être pas eu les bonnes recettes. Enfin, je pense aux dentifrices notamment. J'ai essayé des dentifrices à base d'argile blanche. C'était efficace, mais voilà, j'étais pas assez habituée à la fraîcheur que ça peut laisser en goût via des dentifrices plus industriels. Donc j'ai revu là encore ma façon de consommer, parce que grâce à l'expérience, j'ai appris notamment que les dentifrices qui sont à base de fluor sont très dangereux et qu'un enfant qui consommerait un tube de dentifrice plein de fluor était en danger de mort. Je ne savais pas, donc j'étais assez stupéfaite d'apprendre ça. Donc j'ai revu mes façons d'acheter le dentifrice, mais je ne poursuis plus le fait de le concocter moi-même.
Les expérimentations, c'est terminé.
Voilà. Bah, En revanche, pour tous les produits d'entretien de la maison, là, ça a été un vrai succès. C'est beaucoup, beaucoup, c'est vraiment très simple et beaucoup, beaucoup plus économique. Je pense notamment à la lessive. J'ai acheté un sachet de lessive de pastilles de savon, 6,50 €, et ça m'a permis de faire donc des lessives chaque semaine pendant plus d'un an. Donc c'est vraiment très économique, et en plus c'est ultra facile à faire. En fait, il suffit de faire bouillir de l'eau, de mettre quelques pastilles de savon dans de l'eau bouillante, et puis quelques gouttes d'huiles essentielles si on veut avoir un parfum un peu plus agréable. Et en fait, ça prend 5 minutes et c'est très efficace. Et voilà.
Et ça peut durer jusqu'à une année au moins.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc c'est redoutable. On peut pas du tout, les lessives industrielles ne peuvent pas du tout s'aligner sur ces prix-là. Et pour tous les produits d'entretien de la maison, ça a été une vraie découverte à base de 3 produits très simples qui sont le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude et le savon noir. On peut laver toute sa maison de manière naturelle. Et quand on sait aujourd'hui que les produits qu'on utilise dans sa maison peuvent être des petits poisons, c'est assez rassurant de savoir ce qu'on utilise.
Voilà. Alors, une autre journaliste avait fait un pari similaire, ou peut-être même un peu plus fou, celui de vivre sans frigo. Cette journaliste s'appelle Marie Cochard et elle avait, comme vous, tiré un livre de son aventure sans frigo. Un objet devenu à ses yeux le symbole d'une hyperconsommation dangereuse et donc qu'elle a revendu. Écoutez-la.
Ça peut sembler être une contrainte, le fait de vouloir se passer de réfrigérateur en France aujourd'hui. Une contrainte pas nécessaire, mais l'arrivée du réfrigérateur, elle est vraiment liée à l'arrivée des produits à grande échelle et mis sous vide. Et donc, j'ai vraiment la sensation d'avoir gagné en qualité de vie en me rendant sur mon marché. La question, c'est est-ce que vraiment c'est utile de conserver un réfrigérateur si on consomme comme ça ? Si je n'ai plus que des fruits, des légumes dans ma cuisine et que je minimise ma consommation de viande ou de poisson, est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir un espace réfrigéré branché en permanence ? Alors que peut-être vous pouvez conserver les choses sur le balcon gratuitement. Le réfrigérateur, il n'a qu'une centaine d'années, mais on a oublié beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on ne produit plus nous-mêmes.
Mathilde Gola, vous êtes convaincue ?
Oui, alors peut-être que je n'irai pas comme Marie Cochard me passer de réfrigérateur, parce que je pense notamment au yaourt par exemple. Enfin, moi du coup je sais que je suis comme Marie, je dois davantage prévoir mes repas, faire des courses peut-être plus régulièrement et consommer plus de produits frais locaux. Mais ça me paraît un peu difficile encore, peut-être que j'ai encore des efforts à faire pour me passer de frigo. C'est pas en tout cas à l'heure du jour, mais je rejoins certaines de ces conclusions et celles de se reconnecter un peu avec notre alimentation en consommant des choses plus naturelles et plus brutes qui n'ont pas forcément besoin d'être réfrigérées. C'est vrai que c'est un des constats que j'avais pu faire.
Vous passant de supermarché.
Exactement, voilà.
Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. A-t-on vraiment besoin des supermarchés ? All you need, c'est tout de suite de Raoul Midon sur RFI. I got the world upon my shoulders, all the mountains and the sea, every sad and sorry story breaks my back and bends my knees. And when I look at you, all I do is dream. A little dream, sing a little song, 'cause it may be all you need to get along. Whistle when I walk, laugh a little when I talk, 'cause love is all get along. She's got the world upon her shoulders, same old mountains, same old seas, but all that gravity won't hold her. She's got the love to set me free. And when I look at you, all I do is dream, a little dream. 7 milliards de voisins, comment se passer de supermarché? Avec nous en plateau pour réfléchir à cette question, Mathilde Gola, journaliste économie au Figaro, qui a vécu 100 jours sans supermarché, nous le raconte. Elle nous propose même un guide des circuits courts en France. Et également Yuna Chifolo, directrice de recherche à l'Institut National de la Recherche Agronomique, avec nous depuis les studios de France Bleu Hérault. Alors on en a un petit peu parlé de ces circuits courts, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par circuit court, Yuna Chifolo? Comment les définir?
Il y a une définition officielle depuis 2009, puisque je vous disais, il y a donc le ministre de l'Agriculture de l'époque qui s'est intéressé un peu au phénomène. Alors dans la suite du Grenelle de l'environnement, on a commencé à se poser des questions sur aussi des alternatives en lien avec une autre façon finalement de produire, hein, produire mieux. Et donc les circuits courts sont apparus comme une piste intéressante. Donc il y a eu un groupe de travail qui réunissait autant les professionnels que les acteurs de la société civile, les collectivités, les consommateurs, représentante consommateur, et donc une définition donc a été proposée en 2009, à savoir un intermédiaire maximum entre producteur et consommateur, indépendamment de la distance, indépendamment des modes de production, si bien que certains étaient un peu déçus par cette définition. Mais en fait, la difficulté, c'est aussi qu'il était difficile de définir une distance a priori, puisque en disant que les circuits courts, c'est 100 km par exemple, celui qui est à 101, on serait exclu et ce serait peut-être contre-productif. Et puis, il y a aussi des circuits courts par Internet. Il y a des territoires qui n'ont pas la même histoire, donc le local, justement. Dans certains territoires où l'agriculture est très diversifiée, on va pouvoir s'alimenter à 30 km de chez soi et trouver un peu tout. Dans d'autres territoires où l'agriculture est beaucoup plus spécialisée, c'est-à-dire donc pas diversifiée, c'est plus compliqué, donc il faut s'éloigner un petit peu. Donc il y a volontairement pas eu de distance pour ne pas cadrer trop et donc être contre-productif par rapport à une diversité attendue justement de l'alimentation locale.
Alors aujourd'hui en France, un producteur sur cinq vend une partie de sa production en circuit court. Quels sont les avantages de ces circuits courts donc pour les producteurs?
Alors déjà, un sur cinq, c'est un chiffre 2010. Je pense, enfin, on est tous d'avis.
Chiffre a dû augmenter.
Les personnes qui travaillent beaucoup là-dessus, voilà, que ça augmente beaucoup, notamment parce qu'en fait, les jeunes qui s'installent, donc, ont une orientation vers les circuits courts plus marquée. Donc, c'est dans le renouvellement justement de l'agriculture qu'on va voir sans doute un changement de cap, avec justement des jeunes qui ont appris que, voilà, certains autres, enfin, dans les autres circuits, c'est compliqué, et essaient aussi de se rapprocher des consommateurs. Donc, sans doute que on verra justement au prochain recensement agricole de 2020, une proportion plus importante. Alors, qu'est-ce que ça leur apporte? Le groupe de travail, justement, qui est à l'origine de la définition, l'idée, c'était que d'abord, et ça, c'est un peu, enfin, tout le monde était un peu de cet avis, que ça doit rapporter davantage de valeur ajoutée aux producteurs. Ça, c'était important. Donc, effectivement, non pas tant il ne faut pas voir les circuits courts comme une suppression des intermédiaires, c'est en tout cas pas l'esprit, c'est plutôt l'idée de les réduire pour aussi les revaloriser. Parce qu'il y a un certain, on en reparlera, mais il y a un certain nombre aussi d'intermédiaires qui sont plus, c'est-à-dire qu'effectivement le consommateur en face de lui, il a éventuellement des producteurs ou le supermarché, mais en fait il y a tout un tissu d'intermédiaires, les commerçants, les artisans qui font la vie des territoires, qui font l'économie des territoires et qui sont plus forcément ni reconnus ni valorisés aussi pour les efforts qu'ils font. Et là aussi il y a du lien à recréer avec eux. Donc c'est pas supprimer, c'est réduire pour revaloriser. Avec des intermédiaires qui doivent assumer aussi un rôle de lien, c'est-à-dire de ne plus faire écran entre producteurs et consommateurs, mais au contraire participer à ces échanges entre producteurs et consommateurs.
Mathilde
Donc
Gola.
Capter la valeur ajoutée.
Oui, pardon.
Oui, justement. Oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. Moi, je me souviens justement du supermarché des producteurs dont on a parlé tout à l'heure, Cœur Paysan, basé à Colmar, et ce qu'il me racontait, enfin le créateur de ce nouveau, de ce magasin d'un nouveau genre, m'expliquait que pour lui, en fait, grâce à son magasin et grâce au circuit court, ça signait un peu la fin de l'anonymat alimentaire. Je trouve que cette phrase était assez forte et assez intéressante. Et ça rejoint ce que dit Yuna Chifolo en disant que finalement, les intermédiaires ont un rôle à jouer et justement de personnaliser un peu l'alimentation, enfin de reconnecter les consommateurs avec leur alimentation en étant un intermédiaire vraiment identifié et qui fait un lien parfait entre le consommateur et le producteur.
Yuna Chifolo.
C'est ça, et donc, alors effectivement, avec l'idée quand même que quand on ajoute cet intermédiaire, il faut que justement il y ait une répartition plus équitable de la valeur. Donc c'est tout l'enjeu. Et les circuits courts, donc il faudrait pas justement... Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on a des circuits courts qui rémunèrent mieux le producteur et avec un partage plus équitable de la valeur. Il y en a d'autres où ça l'est moins. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite surtout les consommateurs à être vigilants. Parce que au-delà de la définition, il n'y a pas de charte, il n'y a pas de cadre. Donc, il y a aussi, dans certains circuits courts, je pense par exemple à des plateformes de vente par Internet de produits locaux en circuit court, parfois mélangés à des produits qui viennent d'autres origines, où on a quand même des prix trop importants. Avec trop important au vu de ce qui en plus rémunère le producteur à la fin.
Alors justement,
donc, attention.
Oui, on a cette idée effectivement que les circuits courts coûtent plus cher, Mathilde Gola.
Oui, effectivement. Moi, d'ailleurs, c'était mon hypothèse de départ. C'était en lançant cette expérience, mais j'étais donc allée un mois uniquement en grande surface pour avoir un point de comparaison, et je me suis rapidement rendu compte que finalement, ça me coûtait moins cher de passer par les circuits courts. Alors, j'ai testé différentes solutions de circuits courts, comme le dit Yuna. En fait, il y a énormément de solutions, il pourrait y avoir jusqu'à une vingtaine donc de solutions différentes, et donc à chaque fois que je testais des solutions, enfin des nouveaux modes de consommation, je me rendais compte que je dépensais moins finalement. Alors il faut bien dire que du coup on est obligé de revoir ses habitudes de consommer uniquement des produits locaux et de saison.
De cuisiner aussi.
Et de cuisiner plus, de faire davantage de produits soi-même. On a parlé des produits d'entretien, des produits cosmétiques. Donc voilà, il faut investir davantage dans sa consommation. Mais là aussi, c'est finalement une source de plaisir. Moi, je sais que ça m'a permis de reprendre un petit peu le pouvoir sur ma consommation à l'heure où justement on parle beaucoup des scandales alimentaires ou des scandales en tout genre qui font que nos environnements sont pollués avec des conséquences qui sont parfois parfaitement néfastes. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens présents dans les produits qu'on utilise pour nettoyer nos maisons. Donc finalement, ce temps passé qui est à la fois gain d'argent puisque ça finit par nous coûter moins cher. Enfin, moi, c'est le constat que j'en ai tiré.
Combien par mois ?
Moi, j'ai constaté que j'avais dépensé de 10 à 12% moins cher en fonction des solutions que j'avais pu tester. Donc à chaque fois, le constat se répétait. Donc c'est quand même une
10 à 12% moins cher qu'en
grande surface.
En passant dans des supermarchés.
Voilà. Et donc il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. On a dit donc effectivement, il fallait faire plus de choses soi-même. Il y a aussi moins de gaspillage alimentaire parce que quand on passe par les circuits courts, il faut davantage prévoir ses repas, il faut s'organiser. Donc quand on sait combien de repas on fait par semaine, qu'on prévoit en conséquence, finalement on gâche beaucoup moins et puis on n'est pas tenté par les promotions, les attraits marketing. Enfin, on n'achète que ce dont on a besoin. Donc finalement, c'est là aussi ce qui permet de s'y retrouver d'un point de vue économique. Et puis on n'a pas encore abordé la question de la santé, mais j'ai découvert aussi qu'il y avait un tas de bienfaits en termes de santé si on consomme uniquement en circuit court. Moi, j'ai constaté, par exemple, très rapidement que j'avais une forme de regain d'énergie. Alors, je me suis demandé si c'était pas un peu une lubie, parce que j'étais tellement enthousiaste avec ce défi qui était très gratifiant. Et finalement, je me suis renseignée auprès de nutritionnistes, auprès de diététiciens, et ils m'ont expliqué que c'était pas du tout... que c'était tout à fait justifié d'un point de vue scientifique, si je puis dire, parce que finalement, quand on consomme les produits peu de temps après leur récolte, c'est là où ils contiennent le plus de nutriments et la qualité nutritive est beaucoup plus élevée. Donc c'était assez logique, finalement, que je me sente davantage en forme, d'autant que je consommais plus de produits industriels transformés, et donc on sait qu'ils sont pas très bon pour la santé. Donc finalement, on s'y retrouve un peu sur tous les tableaux. C'est une sorte de cercle vertueux qui s'est enclenché quand je suis passée uniquement par les circuits courts.
Et alors, vous nous donnez quelques exemples de circuits courts auxquels vous avez eu recours ?
Oui, alors bien sûr, je pense au marché. Alors là, d'ailleurs, j'avais fait mes premières erreurs parce que sur les marchés, au départ, moi, je m'étais rendue sur un marché classique en me disant que voilà, de toute façon, j'aurais affaire à un produit. Voilà, ça suffisait. Et puis finalement, j'ai eu affaire à un grossiste. Alors d'entrée de jeu, je m'étais un peu posé quelques questions et je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas face à une solution de circuit court et que de toute façon ce n'était pas très intéressant, que finalement si je me rendais en grande surface ou si j'achetais mes produits uniquement auprès d'un grossiste, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc déjà, j'ai été très vigilante quand je me suis rendue sur les marchés en traquant vraiment les producteurs, et finalement ils sont assez faciles à repérer parce qu'ils l'affichent en gros sur leur stand en général quand ils sont maraîchers, apiculteurs, fromagers eux-mêmes. Voilà, ils l'annoncent et puis ils sont toujours très heureux de partir, enfin de communiquer en fait, de nous éclairer sur leur métier. Ensuite, j'ai testé d'autres solutions. Donc, je suis allée aussi directement à la ferme. Là, c'était encore plus, je suis allée encore plus loin. Et puis après, j'ai testé des solutions via des plateformes. Donc, je pense au comptoir local, notamment, qui est une plateforme internet donc, qui livre les franciliens de produits qui sont allés chercher uniquement dans les fermes de Seine-et-Marne. Donc là, j'avais suivi une tournée des fermes et je peux assurer que vraiment, ils vont tous les matins faire la tournée des fermes et ils nous livrent 48 heures après de produits très frais. Et puis, j'ai testé aussi les épiceries paysannes qui se développent sur tout le territoire aujourd'hui. Donc voilà, ça laisse déjà pas mal de possibilités, en fait. Même quand on habite en région parisienne, on a quand même un vaste choix à disposition. Sans parler de la ruche qui dit oui, qui est aujourd'hui assez connue et qui s'est développée vraiment partout.
Avec des producteurs locaux. Alors vivre sans supermarché, c'est aussi réfléchir à l'alimentation de demain. Et qui sait, les insectes pourraient bien en faire partie.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Bonjour Virginie Mix.
D'accord.
Bonjour, vous avez cofondé un élevage d'insectes qui s'appelle Minus Farm, qui est près de Lille, dans le nord de la France. Alors comment vous est venue cette envie-là, cette idée-là ?
Eh bien, il y a déjà de nombreuses années qu'on est sensible aux problématiques environnementales dans notre famille. Et il y a quelques années, on est tombé sur le rapport de la FAO, donc qui est l'Organisation des Nations Unies pour la promotion de l'alimentation, et qui promeut les protéines d'insectes comme alternative durable aux protéines de viande classique pour les années à venir. Donc on a voulu en goûter, et comme on n'en a pas trouvé, on s'est mis à les élever nous-mêmes pour pouvoir les manger tout de suite.
Alors, vous récoltez entre 5 et 10 kilos d'insectes par mois, c'est ça ? Quel type d'insectes ?
Alors, on a trois insectes à la maison. On a des vers de farine, des criquets et des grillons qu'on élève dans une petite pièce de 10 mètres carrés qu'on a spécialement aménagée pour eux. Donc, 10 mètres, c'est vraiment pas très grand. Et sur ces 10 mètres carrés, on récolte entre 5 et 10 kilos d'insectes par mois.
Et vous arrivez à écouler votre production pour l'instant ?
Ah ben là, on n'arrive même plus à livrer les demandes qu'on reçoit parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui s'interroge comme nous sur la nourriture de demain et les possibilités qu'offrent les insectes. Donc beaucoup de gens veulent goûter et on fait pas mal de dégustations, de sensibilisation et on est en train de développer notre élevage parce que les 10 mètres ne suffisent plus.
Et vous avez donc un projet de ferme urbaine ?
C'est ça. Alors, à Roubaix, donc, qui n'est pas très loin de chez nous, il y a un emplacement qui s'appelle le Trichon, sur lequel il y a un projet de ferme urbaine, qui est en train de voir le jour, qui est soutenu par la ville de Roubaix. Et sur ce terrain, on aurait de la permaculture, du compost, de l'hydroponie, du lombricompostage et également une unité, un conteneur d'insectes donc, qui apporterait les protéines animales.
Voilà, de beaux projets. En tout cas, vous avez une envie de contribuer à un nouveau modèle de société, à réfléchir aussi à une nouvelle alimentation ?
Tout à fait, dans la mesure où, comme le dit le rapport de la FAO, à 9 milliards d'êtres humains en 2050, nos ressources ne suffiront pas si on ne change pas certaines provenances de protéines, par exemple. Et on a voulu s'y mettre tout de suite pour être prêt en 2050.
Vous allez être frais. Merci beaucoup Virginie Mix. Je rappelle que
vous avez
cofondé un élevage d'insectes qui s'appelle Minus Farm. Mathilde Goulet, est-ce que vous êtes mise aux insectes ou pas
Alors,
encore
Alors pas encore, mais justement je me demandais où on pouvait les acheter et si on pouvait les acheter en direct du producteur. Je ne sais pas si...
La consommation en France n'est pas encore autorisée.
Yona Chifolo.
D'accord, voilà. Donc il faudra attendre un peu, mais effectivement, enfin il y a en tout cas des expériences pour aller en ce sens et c'est aussi une des pistes pour l'alimentation de demain. Oui.
C'est encore un marché en plein essor. Mathilde Gola, Yuna Chifolo, vous restez avec nous tout de suite. L'Afrique qui gagne, notre nouvelle chronique du lundi.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Ils
sont entrepreneurs, influenceurs ou simples acteurs de la société civile et ils mettent leur savoir-faire, leurs compétences au service du continent africain. Cette semaine, à Ouakaba, la trentaine sénégalaise de Saint-Louis, cette entrepreneuse a développé Sourtoul, une plateforme de vente en ligne de produits locaux transformés. Alors qu'Amazon, le géant planétaire du e-commerce, ne dessert pas encore l'Afrique de l'Ouest, Alice Milo, notre reporter, l'a rencontrée alors qu'elle était de passage à Paris à l'occasion d'une conférence organisée par l'OCDE, une conférence pour justement mettre en avant le pouvoir des femmes et des enfants à changer le monde.
Je suis originaire de Saint-Louis, du Sénégal, et juste après le baccalauréat en séries scientifiques, mathématiques et sciences physiques, j'ai rejoint l'école polytechnique de Dakar pour y faire une formation en informatique.
Vous venez d'une famille qui avait les moyens d'avoir un ordinateur à la maison ?
Oui, alors je viens d'une famille d'un papa ingénieur agronome et d'une maman expert comptable. On avait la possibilité d'avoir un ordinateur à la maison, donc on faisait des jeux à la maison, on apprenait à saisir à la maison et tout cela, en fait, on a réellement eu l'opportunité de l'avoir grâce aux parents qui ont aussi compris que voilà, la technologie ou bien l'ordinateur pourrait être important pour les enfants.
Vous deviez être peu de filles dans votre école ?
Notre promotion était la seule où il y avait à peu près 10 femmes sur peut-être 30, alors que dans les autres promotions précédentes, il y avait à peu près 2 ou 3 femmes sur une promotion de 30 élèves. On note toujours dans les cursus scolaires qu'il n'y a pas assez de filles en série scientifique et pas assez de filles arrivées à l'université dans les filières technologiques.
Vous êtes aujourd'hui la fondatrice et le leader de Sourtoul. De quoi s'agit-il ?
Alors concrètement, Sourtoul est une plateforme e-commerce dans un premier temps, où on permet à des femmes qui ont déjà des unités de production d'avoir une boutique en ligne et de commercialiser leurs produits.
Pour quel genre de produits ?
Alors, c'est des produits agricoles transformés, c'est-à-dire les confitures, les fruits et légumes transformés en jus, sirop, conserve, les céréales locales transformées, les produits cosmétiques, les produits halieutiques. Il y avait un besoin certain de la part des femmes transformatrices qui disaient qu'elles n'avaient pas accès au marché, qu'elles n'avaient pas assez de visibilité.
Et pourquoi ces femmes, elles n'avaient pas accès au supermarché, par exemple ?
Alors, je pense qu'elles n'avaient pas accès au supermarché parce qu'elles n'avaient pas assez travaillé sur le packaging. Parce que les supermarchés aussi exigent...
Très normalisé.
Voilà, exigent cela. Et aussi la quantité, je pense bien. Qu'elles n'avaient pas assez d'infrastructures ou bien de ressources financières pour mettre en place des industries pour pouvoir approvisionner tous les supermarchés régulièrement. Donc, avec cette plateforme Sourtoul, elles ont accès maintenant au digital pour pouvoir écouler leurs produits et avoir plus de visibilité. Alors là, nous en sommes à 15 femmes transformatrices avec plus de 400 produits référencés. Nous commercialisons les produits à Dakar, dans les régions, au Sénégal, en Europe, avec la diaspora sénégalaise, même en Asie. Donc, aujourd'hui, elles ont la possibilité d'être visibles partout dans le monde parce qu'elles sont sur le digital. Avant, elles avaient juste un périmètre réduit où c'était autour de leur maison ou bien de leur boutique ou bien juste à des foires. Donc c'est ça réellement que la technologie apporte. Ce pouvoir d'être partout sans pour autant vraiment y être, c'est-à-dire d'être chez soi mais d'être partout à la fois. Des femmes ont pu non seulement vendre leurs produits, voir leur chiffre d'affaires augmenter, mais aussi avoir un nouveau type de client. Parce que la clientèle qu'on a actuellement, c'est la classe moyenne de Dakar, qui est beaucoup plus exigeante et qui veut avoir des produits de bonne qualité. Donc vous, en tant que client, quand vous vous connectez sur la plateforme, vous retrouvez plus de 400 produits référencés qui viennent de partout, du Sinsaloum, comme exemple, ou bien de Kédougou, mais qui sont déjà sur place à Dakar. Et donc, une fois que vous avez fait vos paniers, par exemple, en ligne, vous pouvez directement être livré.
À domicile ?
À domicile, voilà.
En fait, vous êtes l'Amazon sénégalais ?
Voilà.
C'est quoi votre produit phare ?
Le plus commandé, c'est un jus de baobab mixé avec le corosol. Je ne sais pas si vous connaissez le corosol, voilà.
Tous ces produits-là, jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible de les trouver à Dakar, dans les supermarchés par exemple.
Le supermarché vend plus des produits importés. Il y a juste 2-3 rayons où on a des produits locaux. Ce qui était disponible, c'est tout ce qui est soda, en fait, qu'on pouvait retrouver au supermarché. On les retrouvait uniquement au marché en produits bruts et chaque fois, c'est la bonne dame ou bien la ménagère ou bien un moment qui faisait les jus à la maison pour avoir un jus naturel.
Et qu'aujourd'hui, elles n'ont plus le temps.
Oui, elles n'ont plus de temps. Elles sont au bureau de 8h à 17h. Elles n'ont pas assez de temps pour peut-être s'atteler à faire un jus chez elles. Elles le disent parfois, qu'elle préfère même faire le jus de bouillie chez elle, mais elle ne trouve jamais le temps et après elle se retourne à acheter des produits importés. Et maintenant il y a une prise de conscience des Sénégalais que consommer local c'est mieux pour la santé, consommer local c'est mieux pour l'économie. Puisque derrière en fait c'est un impact économique qui est réel qu'on est en train de faire auprès des femmes transformatrices.
RFI, 7 milliards de voisins nous rapprochent totalement.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille. Je vous adore beaucoup, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
RFI, la radio du monde, 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Awa Kaba, entrepreneuse sénégalaise, visage et voix d'une Afrique qui gagne. Mathilde Gola voulait réagir.
Oui, effectivement, cette solution, elle est incroyable. Et finalement, c'est ce que j'ai pu découvrir tout au long de mon expérience, que le numérique pouvait effectivement voler au secours de grand nombre de producteurs, parce que la grande distribution, donc on l'a dit, standardise beaucoup les produits qu'elle vend. En fait, on trouve par exemple 3 types de tomates en grande surface quand c'est la saison, ou même pas d'ailleurs, alors que les maraîchers produisent beaucoup plus de tomates que 3 variétés. Et c'est les différentes plateformes numériques qui se développent aujourd'hui permettent justement cette diversité, cet accès plus fort aux produits locaux, et permettent effectivement, comme le disait votre intervenante, de mieux rémunérer les producteurs et de leur donner un débouché qu'ils n'auraient pas autrement. Donc, longue vie à cette Amazon d'un nouveau genre.
Sénégalais Yuna Chifolo, la grande distribution, et ça c'est aussi intéressant, se met à emprunter des idées au circuit court, à s'en inspirer, parce qu'elle y voit aussi certainement un intérêt.
Oui, oui, ils ont bien senti le vent tourner. Les consommateurs donc s'intéressent au circuit court, aux produits locaux qui donnent ou redonneraient confiance à la proximité, qui soutiendraient l'économie du territoire. Alors même s'il reste pas mal de données à produire pour prouver tout ça, et je vous dis, ça va dépendre du circuit court parce qu'ils sont plus ou moins vertueux. Mais en tout cas, les supermarchés ont bien compris. Donc, en tout cas, en Europe de l'Ouest en particulier, ils sont en difficulté. Enfin, en tout cas, il y a des pertes de parts de marché ou un maintien. Donc, ils cherchent un nouveau modèle. Et les circuits courts, l'approvisionnement local, c'est une des pistes. Donc, ils explorent et avec. En fait, finalement, dans les supermarchés, il y a quand même toujours une gamme de produits locaux. Alors, elle est en général pas très importante. Bon, il y a toujours eu ça. Pour l'instant, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils communiquent autour de cette gamme déjà existante dans leurs magasins. Ils aimeraient bien aller plus loin. Donc, ils nous sollicitent notamment pour les accompagner en ce sens. Alors, nous, on passe plutôt du temps sur d'autres circuits courts que sur ceux-là. Mais en tout cas, Et les producteurs sont réticents parce qu'ils se disent « Bon, les supermarchés, on sait qu'on n'est pas très bien traité d'un côté, pourquoi on le serait mieux de l'autre ?» Certains y voient une formidable opération marketing, responsabilité sociale.
Oui, d'autant que les grandes surfaces sont effrayées par la concurrence des géants du e-commerce comme Amazon et ont envie de déployer des stratégies pour se préserver en fait.
Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une des stratégies possibles? Donc, en tout cas, ils sont plutôt proactifs là-dessus. Ils communiquent pas mal. Il y a beaucoup de communication. C'est vrai que nous, de toute façon, on pense que c'est aussi un circuit court comme un autre. Ça peut être un circuit court pour un autre. Donc, on le regarde avec les mêmes yeux, hein, sans idéologie, sans penser que c'est pire ou mieux. Et puis, on voit que ça peut avoir du sens pour un certain type d'agriculture, notamment ce qui s'appelle l'agriculture du milieu aux États-Unis, qui n'a pas tant préoccupé que ça en France, mais qui est pourtant justement l'agriculture en grande difficulté. En France, c'est pas tant les petits agriculteurs qui finalement trouvent une place aujourd'hui en vente directe, mais ni les grandes exploitations très compétitives à l'international. Mais c'est plutôt toutes les exploitations au milieu, de taille moyenne, avec une production pas assez différenciée pour qu'elles s'inscrivent facilement.
Qui pourrait être sauvée par ce nouveau lien avec la grande distribution. On arrive à la fin de cette émission, Mathilde Gola. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus tentée par les tintements des caisses de supermarché. Vous avez réussi à vous en passer complètement?
Oui, exactement. Alors complètement, non, parce que il y a quand même, on l'a dit, quelques produits qui nécessitent un passage en grande distribution. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis quand on a des choses un peu non prévues, c'est les seules fois où je me rends en grande surface.
Et vous pouvez encourager en tout cas les consommateurs qui nous écoutent.
Complètement. Commencer à contourner la grande distribution, finalement, on s'auto-convainc et on change ses habitudes avec plaisir. Et finalement, on découvre tout un univers et un cercle cercle vertueux qui s'enclenche. Donc je pense que si on commence, on peut plus s'en passer en fait.
Et en prenant le temps de le faire, parce que ça prend du temps. Merci beaucoup Mathilde Gola, merci également Yuna Chifolo d'avoir participé à notre émission depuis les studios de France Bleu Hérault. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Baptiste Madinier. Merci également à Raphaël Lazizi et puis merci à vous bien sûr les voisins, les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, à quel moment devenons-nous vraiment adultes? À demain les voisins.